Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Biologica Radiophonicus. Aujourd'hui, je vous propose un numéro un peu particulier, un numéro spécial en quelque sorte, puisque j'ai la chance d'accueillir des membres de l'association Océa Science. C'est une association assez jeune, fondée entre autres par des étudiants de l'ENS de Lyon et qui vise à lutter pour la sauvegarde des océans. De fait, cet épisode ressemblera plus à une interview au cours de laquelle nous aborderons des problématiques biologiques, telles que l'impact de la pollution sur les organismes marins, mais également sans doute des questions plus sociétales et environnementales. Alors, chers invités, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots aux auditeurs, s'il vous plaît ?
Bonjour, donc moi c'est Cédric Jalat, donc président de l'association Océa Science et du coup futur capitaine de l'expédition Explore Agir.
Bonjour, donc c'est Cindy Payex et je suis responsable communication de Océa Science.
Bonjour, donc moi c'est Julien Lambert, je suis en classe en M2 Biosciences avec les deux précédents membres de l'équipe et donc je serai aussi sur le bateau au cours des nombreuses traversées d'Océa Science.
Salut, moi c'est Grégoire, tout d'abord trésorier d'Océa Science, donc je suis en cours avec les trois précédents et je vais embarquer dans cette aventure.
D'accord. Et du coup, est-ce que l'équipe est au complet ici ou est-ce qu'il manque des gens ?
Non, du coup, il manque Guillaume Marcelin qui, lui, est étudiant à l'INSA de Lyon, donc en ingénieur.
D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment vous est venue l'idée de monter cette association et pourquoi vous avez choisi de participer à la lutte contre la pollution plastique ?
Du coup, on avait tous envie de faire un voyage et de prendre une année de césure, donc après notre master de biologie. Et on voulait rendre ce voyage utile. Donc on était tous passionnés par la voile et on a voulu, donc, comme je disais, rendre utile, partir avec, donc, au cours de ce voyage et en discutant, en se renseignant sur les problématiques. Ben, la problématique du microplastique est finalement apparue. Et on s'est dit pourquoi pas travailler là-dessus. Surtout qu'on, via le master de biologie, on a un peu des compétences pour travailler dessus.
D'accord. Voilà. Et justement, ce microplastique, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est différent du plastique en général ou...
Alors, tout d'abord, il faut donc dire ce que c'est que le microplastique. C'est les plastiques qui font moins de 5 mm. On sait aujourd'hui que dans les océans, il y a 250 000 tonnes de plastique. Et 90% en nombre de ces plastiques, ce sont justement des microplastiques.
Des microplastiques. Okay.
Alors, micro, donc on ne les voit pas. Et pourtant, comme on le voit en nombre, c'est ceux qui représentent en fait la quasi-majorité des plastiques. Et c'est eux qui vraiment vont avoir un impact un petit peu insigneux. C'est-à-dire qu'on connaît depuis très longtemps, par exemple, l'impact des sacs plastiques sur les tortues marines.
Qui sont confondus par des méduses.
Voilà, exactement. Et en fait, sur ces microplastiques-là, ces dernières années, on a découvert qu'ils avaient un rôle aussi très néfaste dans les écosystèmes marins. Donc c'est pour ça que nous, on trouve cette problématique très intéressante et à la fois aussi grave.
D'accord. Et ce rôle néfaste, il a lieu sur quels organismes ? Sur toute la chaîne alimentaire ou plutôt sur les petits organismes ?
Alors justement, ça c'est des questions qui restent encore assez obscures. Déjà, il y a un constat assez alarmant, c'est que tous les ans, il y a 10 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans. Et comme j'ai dit, les dernières estimations, c'est qu'on en retrouve dans l'océan que 250 000 tonnes. C'est-à-dire en gros 40 fois moins, quoi. Donc c'est-à-dire 0,1% de la production annuelle. De 300 millions. Et donc, une des pistes pour savoir où passe tout ce plastique, c'est qu'en fait, il pourrait passer dans la chaîne alimentaire.
D'accord.
Donc, on a déjà certains indices par rapport à ça. On sait qu'il y a de nombreuses études qui ont révélé que de nombreux poissons, par exemple, ingéraient du plastique. Donc, quand on dissèque l'estomac, on retrouve des très nombreuses pièces de plastique.
Oui.
Et après, sur les effets, dans la nature, en fait, on ne sait pas trop quels seront ces effets de ces microplastiques. Mais il y a de nombreuses expériences en laboratoire, notamment qui ont montré tout un tas d'effets très néfastes. Donc par exemple sur le développement, aussi des effets sur le comportement, parce que ça va affecter le cerveau, ça va provoquer des cancers, bref, tout plein d'effets néfastes. Et aussi un autre effet, c'est que le plastique en lui-même est néfaste de par sa nature, mais aussi le fait qu'il va sorber tout plein de polluants, notamment... Des polluants qui, là, vont être très néfastes. Et donc, c'est là où, finalement, on sait très peu de choses.
Oui, donc, le plastique pourrait être un vecteur pour d'autres...
Exactement.
Ouais, d'accord.
Exactement. Donc, un vecteur à la fois chimique. Une dernière chose aussi, c'est que ça pourrait être un vecteur un petit peu biologique avec des effets sur les écosystèmes, en notamment transportant tout plein de bactéries. Mm-hmm. Et ils vont les faire voyager dans les océans. Et donc, avec des impacts, là encore, totalement inconnus.
D'accord. Et est-ce que du coup cet impact, il se fait uniquement au niveau de la faune marine telle qu'on l'imagine, ou est-ce qu'il y a aussi un impact sur nous, les populations humaines, ou est-ce qu'on ne sait pas encore ?
Alors ça, pour l'instant, c'est des questions qui restent en suspens, parce qu'il n'y a pas assez d'études pour avoir de vraies preuves d'un tel phénomène. Alors, on a quand même plusieurs observations qui suggèrent que par exemple, les sociétés humaines pourraient déjà être impactées par les microplastiques. Donc la première, c'est que dans tous les... par exemple, si vous allez donc dans une poissonnerie, dans un marché... La plupart des poissons, enfin des études ont montré que la plupart des poissons contiennent en fait déjà des particules microplastiques, alors même qu'ils sont composés à l'avant. Donc là, c'est assez facile d'imaginer que nous-mêmes, on puisse ingérer par ce biais-là des microplastiques. Ouais. Et donc, une autre observation qui est aussi assez alarmante, c'est que dans la plupart des sels de table commercialisées, donc même en France, on retrouve aussi des particules plastiques qui sont invisibles à l'œil nu, qui ne sont pas pas possible de les traiter, pas possible de les séparer, et donc elles se retrouvent directement dans le sel de table qu'on consomme tous les jours.
D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant avec les microplastiques, c'est que contrairement aux plastiques dont on se connaît déjà plus l'impact sur les organismes, précisément avec des effets plus au niveau de la physiologie et des organes véritablement, le microplastique a plutôt une problématique qui n'est pas encore véritablement découverte et qui pourrait avoir des rôles encore inconnus, c'est ça ?
Exactement. Donc c'est pour ça que nous, on essaye en fait d'apporter de nouvelles idées, surtout de nouvelles données sur ce phénomène-là, et notamment donc sur l'ingestion par la faune au sein même des écosystèmes marins.
D'accord. Et souvent, ce qu'on voit dans les médias, lorsqu'on entend parler du plastique et des océans, c'est l'idée de septième continent. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire ce que c'est, ce septième continent ? Est-ce qu'il existe ? Qu'est-ce que c'est ?
Bah alors, donc oui, l'idée du septième continent, elle a été popularisée il y a environ une dizaine d'années, donc par une expédition du même nom. Et donc, c'est vrai qu'on imagine souvent des gigantesques plaques solides de plastique sur lesquelles on pourrait en marcher, donc des choses gigantesques. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas du tout ça la réalité au sein des océans. Si on veut faire une analogie, il faudrait plus essayer d'imaginer une sorte de bouillie ou une sorte de soupe où on retrouve plus de particules qu'ailleurs. Donc dans un mètre cube, il peut y avoir jusqu'à 300 particules. On est loin en fait cette appellation de septième continent suggère. C'est pas du tout une masse solide, c'est plutôt une sorte de bouillie, mais qui reste quand même assez, assez peu dense.
Voilà, mais au final, c'est même plus inquiétant encore, parce que là, le continent, on a l'idée qu'on le voit, alors que là, c'est une pollution invisible. Comme j'ai dit, il y a une grande part du microplastique, on ne sait pas où il passe.
Oui.
Et en plus, ce n'est pas réuni vraiment en un continent. Alors certes, il va y avoir une plus grande concentration au cœur du Gire, qui est en fait... c'est le courant océanique qui tourne et qui se concentre dans le Gire. Donc il y en a un dans tous les océans. D'accord. Donc effectivement, au cœur de ce Gire, la concentration en plastique est bien plus grande. Mais pour autant, en fait, c'est une pollution qui est à tous les niveaux. Là, on commence tout juste à rechercher à d'autres niveaux. On pensait que c'était qu'en surface, maintenant on voit que c'est plus en profondeur. On pensait que c'était que dans l'eau, maintenant on voit que c'est dans les organismes.
Oui.
Donc c'est une pollution vraiment insidieuse.
Et du coup, ce qui pose un problème, c'est que, justement, si le septième continent n'est pas vraiment solide, on ne peut pas vraiment le nettoyer, en fait. On ne peut pas attraper par des filets les plastiques, vu qu'ils sont trop petits et disséminés à peu près partout dans l'océan.
Oui, exactement. Enfin, pour nettoyer l'océan, là, il faudrait des filets très fins.
Oui, qui captureraient beaucoup trop. Et d'ailleurs, concernant cette répartition, est-ce qu'il y a des expéditions qui ont déjà été menées afin de mieux comprendre comment se placent les plastiques dans l'océan ? D'où est-ce qu'on tire tous ces résultats ?
Comme expliqué avant, il y a principalement septième continent qui a étudié ces questions. Il y a eu Tara aussi. Mais
Est-ce que tu peux définir Tara vite fait, ce que c'est ?
Tara, du coup, c'est plus une plateforme au final, donc c'est un bateau qui sillonne un peu les mers du globe et qui sert en fait de plateforme scientifique pour plein d'équipes, donc du monde entier, qui vont pouvoir aller sur ce bateau, principalement donc pour récolter des données, et après ils retournent chacun dans leur labo faire les analyses.
D'accord.
Du coup, ça sert vraiment de plateforme à plein d'équipes pour faire ces analyses.
Ok, il y a une sorte de collaboration mondiale.
Exactement,
oui. Okay.
Mais du coup, c'est vrai que la plupart des expéditions comme Tara, 7e continent, n'ont pas encore étudié vraiment au niveau du poisson. Il y a eu pas mal de choses au niveau du plancton. Tara, et après Tara, c'est pas du tout qu'au niveau du plastique même. Donc aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur le blanchiment du corail, par exemple.
D'accord.
Mais du coup, c'est vrai qu'il reste encore énormément de choses à faire. Et comme Grégoire l'a expliqué, au niveau de l'impact du plastique, du microplastique sur le poisson.
D'accord. Et donc, c'est en parallèle de tous ces projets que vous comptez lancer votre propre mission d'analyse de la pollution microplastique dans l'océan Atlantique Nord, c'est ça ? Avec le projet Exploragir. Est-ce que vous pouvez me dire vite fait qu'est-ce que c'est les missions de ce projet ?
Oui. Effectivement, comme expliqué, c'est assez dingue de voir que ça fait des dizaines d'années qu'on balance des millions de tonnes de plastique dans l'océan. Ensuite, finalement, assez tard, dans le XXe siècle, on a découvert ces continents, entre guillemets, de plastique. Et encore plus récemment, finalement, c'est assez récent qu'on a découvert cette pollution microplastique. Effectivement, les premières expéditions, donc d'abord Tara, puis après continuées par Septième Continent, elles ont vraiment mis le doigt pour essayer de quantifier cette pollution microplastique et vraiment essayer de comprendre l'origine de ces microplastiques. Donc c'était un travail effectivement très, très important, crucial. Mais donc nous, maintenant, on voudrait aller un petit peu plus loin, notamment donc apporter un projet personnel pour vraiment essayer de comprendre dans la nature, finalement sur tout l'océan, comment est-ce que ce microplastique va pouvoir se retrouver dans les chaînes alimentaires.
D'accord.
Donc pour ça, nous, on veut se focaliser sur une partie souvent délaissée par ces expéditions, donc qui est l'ingestion du plastique par les poissons.
D'accord.
Et donc en fait, pendant toute l'année de l'aventure, ce qu'on veut faire, c'est pêcher donc des poissons sur tout l'océan, pratiquer des dissections donc sur le bateau pour récolter le plastique et pour après faire donc des analyses statistiques pour comprendre quels sont les facteurs qui finalement mènent à l'ingestion du plastique par les poissons. Est-ce qu'il y a des poissons qui sont plus susceptibles que d'autres par cette pollution ?
D'accord.
Est-ce qu'il y a aussi des stades de développement plus sensibles ? Est-ce que l'environnement finalement joue un rôle ? Donc ouais. Tout ça pour après essayer de proposer des politiques pour finalement mieux gérer cette pollution plastique qui se retrouve dans nos assiettes.
D'accord. Et est-ce que vous aurez des moyens de suivre l'évolution du plastique dans la chaîne alimentaire ?
C'est une question délicate. Nous, finalement, vu que plusieurs études ont déjà été faites sur le plancton, donc finalement au premier maillon, nous, on va s'attaquer à des maillons supérieurs, avec en fait que des consommateurs, donc plutôt des consommateurs primaires. Et donc effectivement, on va essayer de voir si ce microplastique, par le biais du plancton, peut se retrouver dans le poisson. Et donc, notamment pour la dissection des poissons, ce qu'on veut faire aussi, c'est donc déterminer les habitudes alimentaires des poissons, donc pour voir si effectivement, suivant ses préférences alimentaires, suivant finalement aussi sa place dans la chaîne, le plastique va plus ou moins s'accumuler.
Donc ça aborderait également des problématiques d'écologie
exactement,
classique.
Oui.
D'accord. Et plus concrètement, vous avez dit que l'expédition durerait un an et vous la prendriez pendant votre année de césure. Comment vous comptez organiser cette expédition au niveau pratique ?
Du coup, on partirait donc l'année prochaine, vers septembre. En pratique, c'est tour de l'Atlantique Nord.
Oui.
Donc pour passer effectivement dans le gyre de l'Atlantique Nord, donc ce courant circulaire qui concentre beaucoup de particules de plastique. Concrètement, c'est avec un voilier, du coup qui a été acheté cet été, qu'il va falloir encore aménager pour intégrer toutes ces analyses scientifiques.
Donc c'est un voilier qui n'est pas du tout prévu à la base pour faire des expéditions scientifiques. C'est vous qui allez tout organiser. Le matériel de dissection.
Tout à fait, oui.
Oui, le voilier en lui-même, c'est un voilier de voyage classique, ouais, effectivement.
D'accord. Du coup, cette année, vous préparez l'expédition véritablement ? Vous prévoyez à quel moment vous allez vous arrêter, les trajets à suivre, ou vous pensez plutôt le faire en fonction des résultats obtenus directement pendant l'expédition ?
Du coup, au final, pour la sécurité et pour composer avec la météo, le trajet est déjà bien ficelé. Donc rien qu'au niveau des dates, on est obligé de partir hors période cyclonique. Donc la traversée se fera courant décembre, voire début janvier, la traversée du Cap Vert vers Martinique. Après, on a déjà des escales qui sont prévues. Et voilà.
Et vous pensez qu'il y aura une importance dans la période de relever des échantillons, enfin je veux dire, vous ne serez pas aux endroits au même moment. Du coup, vous pensez que le temps peut influencer la quantité de plastique retrouvée dans les poissons ou pas ?
Oui, bien sûr. C'est un paramètre du coup qu'il faudra surveiller de près. Quand on se lance dans une étude aussi vaste, là effectivement c'est des échelles à la fois surtout d'espace énorme et de temps. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'il faudra voir. Notamment, il y a beaucoup d'espèces migratoires. Mais bon, on ne peut pas être partout en même temps. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment voir à une échelle très grande. Mais à des échelles locales, effectivement, il faut corriger avec les effets de saison.
Et du coup, concrètement, vous avez dit que vous avez acheté un voilier. Comment ça se passe au niveau des financements quand on veut lancer une association comme ça?
On va postuler à diverses bourses un peu publiques, notamment au niveau des ministères, de la recherche, de l'enseignement, tout ça. Aussi, après, on cherche des partenaires privés, donc des entreprises. Par exemple, on pense, il y a une entreprise qui crée des bouteilles dans un nouveau matériau pour remplacer le plastique.
Oui.
Ça s'appelle Vegan Bottle, donc on va essayer de les contacter pour voir si on ne peut pas être en partenariat avec eux. Oui, et après, on va lancer une campagne de crowdfunding à la fin de, juste avant l'expédition, enfin... Un peu en amont, pour essayer de faire participer le plus de gens qui sont intéressés par le projet et qui voudraient s'impliquer dans l'expédition en donnant de l'argent. En fait.
Donc des financements d'un peu partout, en fait.
Oui, c'est ça. On essaie de ratisser le plus large possible pour obtenir le maximum de financement.
En un mot, on mange à tous les râteliers, parce que c'est très difficile d'obtenir de l'argent. Donc tout ce qui est possible, en fait, on le fait. Évidemment, il faut que ça soit en accord avec l'idée du projet. Mais tous les financements possibles, que ce soit public, privé ou des connaissances, on essaie vraiment tout. Quoi.
D'accord. Et du coup, vous allez collecter vos données pendant votre voyage. Et après, qu'est-ce que vous allez en faire de vos données? Qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous les présenter?
Alors, donc, on a eu plusieurs idées pour la valorisation. Donc déjà, en termes de données, vraiment parlant que de données, on souhaite donc publier les résultats qu'on pourrait avoir.
Donc, dans un article scientifique classique.
Voilà, donc soit dans une revue spécialisée, ou si ça n'est pas possible, plutôt dans une revue donc grand public, comme donc pour la science en Séville, donc ce genre de magazine. On a aussi donc d'autres idées de valorisation, et donc la principale, c'est la réalisation d'un documentaire.
D'accord.
Donc pour cela, on va embarquer donc de quoi tourner donc notre documentaire, donc c'est-à-dire une caméra, un drone. Okay. Pour donc montrer par exemple divers aspects du projet, comment est-ce qu'on a récolté nos données, comment est-ce qu'ensuite, par exemple les dissections, comment est-ce que ça peut être fait.
Afin de mieux communiquer avec...
Donc si possible aussi avec des petites interviews au cours du trajet, même aussi de spécialistes si cela est possible. Et ensuite donc on aimerait réaliser ce documentaire et le projeter en revenant, donc si on revient donc au début de l'été 2019, le présenter pour la rentrée 2019-2020.
D'accord, donc pour vous la vulgarisation de ce projet est vraiment importante?
Oui, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que ce projet, à la fois, donc, il y a un projet scientifique, mais finalement, la sensibilisation, c'est quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. D'accord. Je pense aussi que c'est l'intérêt de ce genre d'expédition, comme Tara, 7e continent, ou voilà, nous, à notre échelle, finalement, plus locale, c'est vraiment de communiquer avec les gens aussi tout au long du voyage, et puis après, à la fin du voyage, avec le documentaire, montrer finalement... des images qu'on va ramener du milieu de l'océan et pour faire comprendre aux gens que ce qu'ils font là, à Lyon ou autre part, ça va avoir des répercussions après dans l'océan, puis quand ils vont après aller chez le poissonnier. Quoi.
Ok, et d'accord. D'ailleurs, concrètement, pendant le voyage, est-ce que vous aurez Internet pour pouvoir communiquer avec le continent ou vous serez isolé?
Avec le 7e uniquement.
Du coup, ça c'est un petit peu compliqué. Normalement, on aura de quoi envoyer un mail à peu près tous les jours, mais pas plus parce que les communications coûtent extrêmement cher. Après, il y a d'autres solutions. Par exemple, on peut avoir un tracker GPS et tous les jours envoyer notre où on se trouve exactement, et comme ça, on peut être suivi sur notre site internet, par exemple.
D'accord.
Ça, c'est des choses qu'on aimerait pouvoir mettre en place et qui existent. Mais c'est vrai qu'une fois au milieu de l'océan, la communication se fait bien plus difficile.
Du coup, ce sera un peu Cindy qui sera en charge de retransmettre l'avancée de votre exploration, expédition.
Oui, c'est ça, je ferai un peu le lien. Déjà maintenant, on est assez actifs sur Facebook notamment. Donc on essaie de publier assez régulièrement pour tenir au courant les gens de ce qu'on fait un peu pour l'avancée du projet. Et ce sera aussi le cas quand les garçons seront sur le bateau, donc... Comme ils l'ont dit, je recevrai des mails assez régulièrement, donc j'essaierai de tenir au courant les gens de l'avancée du projet quand ils seront sur le bateau. Je ferai un peu le lien avec la Terre.
Ok, donc il y a vraiment une communication avant le projet, pendant le projet et après le projet qui est...
Oui, c'est vraiment très important pour nous, je pense.
J'avais une question. Est-ce que l'ENS de Lyon s'est impliqué dans votre projet ou est-ce que vous le faites vraiment en parallèle?
Alors, on essaye de intégrer l'ENS puisque le projet est né à l'ENS, donc c'est important pour nous qui participent au projet. Donc là, on essaye de voir avec eux pour qu'on puisse utiliser le logo, notamment, ce qui est important.
Oui.
Et donc, c'est en train d'être mis en place avec, avec l'ENS. Et aussi avec l'INSA, puisque, donc, comme l'a dit Cédric, il manque aussi Guillaume qui est à l'INSA, et on essaye aussi avec eux d'avoir des liens avec, avec son école, puisque ça peut apporter autre chose que l'ENS.
Après, on est quand même encadré aussi avec donc, à l'intérieur du master de biosciences. On a quelques retours de professeurs, on a un tuteur qui nous aide. Donc non, il y a quand même une aide.
Ok, donc vous... Ouais. Oui, du coup, est-ce que vous pourrez organiser genre, des conférences à votre retour pour parler avec les élèves qui pourraient être intéressés
Oui, effectivement. Oui. Je pense que c'est, bah, comme on l'a dit, pour la valorisation, c'est très important. On essaye, par exemple, de monter un partenariat avec le Musée des Confluences, qui est très en lien avec l'ENS. On aimerait pouvoir faire des conférences, des expositions là-bas. D'accord. Donc ça, c'est en pourparlers, mais normalement, ça devrait se faire. Et après, ben, normalement, on prévoit également qu'il y ait une autre équipe qui soit là l'année d'après. D'accord. Donc ça, on sera sûrement début d'année prochaine sur les chaînes d'inscription ou ce genre de choses pour pouvoir parler directement avec les personnes intéressées. Et tous ceux qui sont intéressés, qui ont déjà des idées de projets, qui n'ont même pas forcément du tout de rapport avec le plastique, mais qui, autour de l'océan, nous, on est prêts à les aider.
Donc en fait, l'association Océa Science, pour l'instant, il y a juste un projet qui est prévu pour l'année prochaine, mais l'association a pour vocation de perdurer dans le temps avec de nombreux projets, tous en lien avec la protection de l'océan.
Oui, totalement. Ouais.
Et enfin, je profite de votre présence sur Transistor pour vous demander, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices
Bah, peut-être pour rebondir avec ce que Julien disait tout à l'heure, donc la volonté qu'on a de produire un documentaire. S'il y a des étudiants en cinéma qui sont intéressés pour nous aider avec ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les compétences nécessaires, même quelqu'un qui voudrait le monter après ou nous donner quelques conseils pour de jolis plans, tout ça, on est très preneurs.
Et rien d'autre.
On vous aime.
Donc je vous remercie beaucoup pour votre présence ici et pour votre travail de vulgarisation sur l'impact de la pollution microplastique dans l'océan. Et oui, c'est ça, je voulais vous remercier tous pour votre présence ici. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toute Baptiste. L'équipe.
Merci à mes auditeurs.
Et donc je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'équipe d'Océa Science sur les divers réseaux sociaux et sur leur site internet qui sera en description de l'émission. Merci.